Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est l'animal. Lundi, nous avancions avec Baptiste Morisot les bases philosophiques pour une nouvelle diplomatie avec les loups, entre autres. Hier, mardi, les meutes étaient composées de corps humains et le devenir animal de Deleuze était vécu comme une transition vers un état de disponibilité infinie. Demain, jeudi, le chien se trouvera au cœur d'une revue littéraire bilingue avant une carte blanche cinéma vendredi en forme de bestiaire. Mais au programme du jour, des loutres, des chatons, des pandas. Étude de cas, exercice pratique et aveu. En vue de l'émission du jour, Alice Ramon, Léna Burger, Catherine Pétillon, Lucille Como ont partagé avec le bureau généreusement quelques vidéos pépites de maman panda jouant avec son petit pendant de longues minutes, d'images de lémuriens particulièrement attachants ou encore la liste est longue des mammifères pratiquant une forme de luge ou des renards mordillant la main du caméraman. Ce serait mentir que de circonscrire cet échange de vidéos à la seule préparation du programme du jour. Face à cela, nous pourrions établir une courbe graphique assez stable des réactions rencontrées en fonction du spectateur collègue, allant d'un agacement certain frisant la pulsion violente à l'attendrissement hystérique le plus bêta. Le devenir peluche du web nous interpelle, il est 14h passé de bientôt 2 minutes, il est possible que les courbes changent. Bienvenue dans les nouvelles vagues. Chaque semaine, nous sondons une personne sur ses propres nouvelles vagues, les points de départ de ses nouvelles façons de voir le monde, de penser, des expériences fortes, des récits d'expériences fortes. Cette semaine, Marie Hampe se prête au jeu, elle est costumière et elle raconte aujourd'hui combien la découverte de certaines photographies de parures ont influencé ses propres créations. Récits et plumes vers 14h45. C'est le troisième moment d'une série d'émissions consacrées à l'animal et comme chaque mercredi, nous nous demandons quels échos trouve notre thème dans la caisse de résonance qu'offre le web. Nous en passerons par des énumérations, pourquoi pas, et l'évocation de quelques stars, tant le web, via les réseaux sociaux et les plateformes vidéo, mettent en circulation, ou les utilisateurs du web même, mettent en circulation un nombre croissant d'images de bêtes. Ce nombre croissant n'est pas sans lien avec l'hystérie de clics qu'elles génèrent, l'ayant identifié, ceux qui se soucis précisément de leur audience peuvent mettre en avant, au même titre parfois et pourquoi pas que quelques femmes dénudées, des chats mignons ou des loutres. On appelle ça un produit d'appel et nous avons longtemps gardé punaisé au mur cette phrase du community manager de l'Elysée qui dit, je cite, « Sur le web, il faut toujours se souvenir qu'on est à trois clics d'un chaton ». Mais d'une part, cela n'explique pas encore l'audience que cela génère, ni ce qu'il reste d'animal, d'animalité dans ces images. Et d'autre part, il n'y a pas que ça. Par exemple, Anne Aurel, vous intégrez à votre travail vidéo de gifs et de musique à la fois ces images d'animaux mignons, plein d'autres choses, et à la fois l'hystérie qui va avec. C'est aussi une proposition artistique. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et vous, Camille Gévaudan, vous êtes journaliste à Libération, fine observatrice de toutes ces choses. C'est vous qui avez dit à Anne ce qu'était un lolcat.
Oui, c'est vrai. Elle connaissait kawaii, mais pas le terme
lolcat. Exactement. C'est votre première participation pédagogique de cet après-midi. Et vous avez été, vous êtes encore la présentatrice d'une émission qui s'appelle 56, comment on dit ?
56 castes.
Bonjour à vous et bienvenue.
Merci.
Alors j'ai dit qu'on allait passer par une énumération, ou en tout cas une description de ce qu'on trouve comme présence animale sur Internet. Toutes les deux, vous êtes consommatrices d'un flux web conséquent ?
Anne Aurel. Permanent, on va dire.
Permanent ?
Ouais. Et donc aussi de chatons, de loutres et d'autres petites bêtes. Comme le coca, par exemple, qui est une de mes petites bêtes les plus mignonnes du monde préférées.
Et qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un lémurien on a l'impression qu'il sourit tout le temps. Donc, il y a un hashtag où on fait des selfies avec les coca et en fait, ça rend heureux.
Ça vous rend heureuse ?
Je pense que ça rendrait n'importe qui heureux, en fait. C'est parce que c'est vraiment extrêmement mignon. Enfin, ça frôle l'indécence, quoi.
Si on fait une sorte d'archéologie de la manière dont, je sais pas, vous regardez ces images-là, ça fait combien de temps que vous les regardez ? Sur quelle plateforme ? À quelle fréquence ? Plutôt des images animées, des vidéos ? Plutôt des images fixes ?
En fait, je regarde. Enfin, c'est mon métier part de ça, en fait. Donc, les animaux, c'est entre autres, en fait, on va dire. Donc ça fait, enfin, l'animal fait partie du flux. Je pense que ça a toujours été là, à vrai dire, quoi. J'ai commencé par regarder mes propres chats physiquement et je regarde toujours ma propre chatte, pour le coup, tous les jours. Et sur le web, ça arrive, enfin, ça pop-up, on va dire.
Et c'est là plus qu'autre chose, parce qu'on, c'est quelque chose qu'on décrit beaucoup de ce qui s'échange sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses qui circulent, plein d'autres images qui circulent. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous arrive à vous plus qu'autre chose comme image?
Honnêtement, pas particulièrement, non. Je dirais que... En fait, on est dans un tel flux que tout est à peu près au même niveau, et j'irais même jusqu'à dire que l'animal est presque banal en fait aujourd'hui dans ce flux. Vous parliez du lolcat, le lolcat c'est presque too old to post, quoi. Enfin, ouais.
Alors le lolcat, j'en parlais parce que ça faisait en effet partie des premières définitions qui avaient été données en secret avant le direct par vous, Camille Gévaudan, à Anne, qui s'apprêtait à faire le sommaire « too old to post », c'est-à-dire que c'est trop ancien pour être partagé et trop ancien pour être posté. Quelle observation vous avez fait, vous, et depuis quand, de la présence animale sur Internet, Camille Gévaudan?
Justement, je pense que le lolcat redevient un peu vintage et un peu... c'est vrai que maintenant, on passe à d'autres animaux mignons. Il y a une grande mode des pandas roux et des loutres, effectivement, en ce moment. Mais du coup, reposter des lolcats, donc à strictement parler, le sens original, c'est une photo de chat dans une position amusante avec une légende qui est écrite en police impact, donc en gros caractère blanc et gras. Poster ça, ça fait un petit peu connaisseur du web, connaisseur de la culture web d'il y a 10 ans, parce que effectivement, le début de la mode des chats sur Internet, c'était 2005-2007.
Et on saurait dire un peu d'où ça part, pourquoi le chat? D'ailleurs, il va falloir ensuite discuter de savoir si c'est le vrai animal star, car j'ai lu des articles qui enlevaient le caractère star du chat au profit du chien. En fait, on partagerait plus de photos de chien que de photos de chat.
Oh, alors ça, j'en sais rien. Moi, je pense que... C'est difficile d'avoir un point de vue objectif parce qu'on trouve sur Internet ce qu'on cherche déjà. Moi, plus je fais de la veille sur les animaux et plus je m'abonne aux animaux qui m'intéressent moi, plus ce genre d'informations m'arrivent parce que c'est selon les comptes Twitter auxquels je m'abonne, les flux RSS que je suis et les mails que m'envoient les gens autour de moi qui me connaissent. Donc finalement, on tourne toujours dans ces mêmes centres d'intérêt. Des chiens, j'en vois jamais. Mais c'est comme tous les sujets sur Internet, je pense qu'on reste dans une bulle de ce qu'on connaît déjà.
Anne-Aurel disait que finalement, elle avait toujours regardé des animaux, depuis ses propres chats jusqu'aux photos et aux images animées qu'elle trouve sur Internet. Vous, ça remonte à quoi, comment, pourquoi avoir regardé des animaux? Est-ce que c'est lié à un autre folklore, à un autre appétit culturel?
C'est professionnel. C'était dans le cadre d'une veille de la culture web qu'on faisait pour le site écran.fr, donc qui a été fermé depuis, mais qui s'occupait de tous les sujets numériques pour Libération. Et il y avait tous les jours une sélection qui s'appelait Vue sur le web de tout ce qu'on trouvait un peu de la culture web, de la culture geek. Maintenant, ça sert plus à rien qu'on fasse cette veille parce qu'il y a des sites qui ne font que ça, hein, les sites Board Panda, 10 minutes à perdre et je ne sais quoi, qui servent à passer le temps quand on est au bureau et qui cherchent des courts-métrages marrants, des images, des clés USB en forme de Dark Vador sur Internet. Et nous, on faisait ça sur écran à partir de 2006. Et le vendredi, il y avait un bonus qui était la vidéo de poil. Et ça s'appelait Vendredi à poil. Et ensuite, on a vu que c'était un peu la seule rubrique qui valait le coup, enfin le seul aspect qui valait le coup d'être continué et qui intéressait les gens et qu'on nous réclamait tous les vendredis. Donc on a continué à faire Vendredi à poil tous les vendredis.
C'est quand même à partir de cette question-là, et on va probablement les tirer un peu, à la fois en partant de votre propre expérience et en partant de ce qu'on peut observer comme audience. Vous dites, sur écran, on se rend bien compte à un moment donné que c'est cette vidéo qui est réclamée. Comment expliquer que c'est cette vidéo donc d'images, d'animaux qui 10 ans en arrière, faisait déjà le plus d'audience?
L'amour naturel de l'humanité pour les animaux, je saurais pas expliquer plus que ça. Il y a un truc qui fait que c'est toujours ce qui marche le mieux dans tous les domaines.
Moi, j'aurais envie de dire que l'animal, en fait, c'est nous, et on a tendance à l'oublier. Et ensuite, on vit dans un monde vraiment pas très joli et puis les animaux c'est mignon et du coup ça fait un peu de bien en fait, ça fait un peu de pommade, quoi.
Mais les animaux, c'est mignon, c'est parce que ça, on le dit. On a décidé que les animaux étaient mignons.
Non, l'animal est mignon en soi.
Certains animaux sont mignons. Il y a une étude qui montrait récemment que les animaux qui disparaissent ne sont pas mignons parce qu'on a moins envie de les protéger. Enfin, l'humain s'y intéresse moins et ils sont moins susceptibles de perdurer dans le temps.
Bah, on reviendra sur cette question de la protection, vous allez voir, tout à l'heure dans l'émission. Mais avant cela, on va continuer quand même ce catalogue de présence animalière sur Internet. Dernière en date, je ne sais pas, d'une star animale, parce qu'il en existe sur Internet, qui vous aurait interpellé, Anne-Aurel.
Il y a Albert le chat. C'est un chat teckel. C'est les chats nains avec des toutes petites pattes. Et il a beaucoup de poils. Donc c'est une boule de poils, littéralement. Et il a une espèce de petite tache sur le museau qui est absolument adorable et des yeux très ronds. Enfin, c'est une chose ronde et duveteuse.
Vous l'avez rencontré où ?
Sur Instagram.
Est-ce que ça, c'est vraiment un lieu, par exemple, de rencontre pour personnes en appétit d'images d'animal ? Instagram, donc on rappelle une plateforme où on peut trouver des photographies postées par des individus.
Oui, un réseau social, même, on peut le dire comme ça. Oui, entre autres, je suis abonnée à plusieurs profils de chats.
Et en l'occurrence, ça, c'est un profil de Albert le chat ou c'est un profil de quelqu'un qui possède Albert le chat ?
Ah, mais c'est évidemment Albert le chat qui prend ses propres selfies et poste ses propres photos. J'en suis convaincue.
Et alors, du coup, vous le regardez dans quel genre de situation, Albert le chat ? Et à quelle fréquence ?
Eh ben, je le regarde dans mon flux déjà. Enfin, comme la plupart des choses que je regarde sur Internet, j'allais dire, je subis mon flux, mais en fait, je le subis pas tant que ça puisque je le choisis finalement. Je choisis le contenu. Des fois, je vais tomber sur une photo d'Albert, par exemple, et puis je vais me dire, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il fait, et puis du coup je vais voir son profil et puis je peux passer de longues heures à scroller
Scroller, c'est donc faire défiler l'écran de manière infinie puisque ça n'a pas de fin.
Et je double tape des fois pour liker les photos.
Quand vous observez Albert, il est dans quelle situation ?
Oh non, toutes sortes de situations.
Il faudrait les décrire.
Il peut être en train de jouer, il peut être déguisé souvent. Dans des situations de la vie quotidienne.
De vie quotidienne, voilà. De chat.
Oui.
En gros plan ?
En gros plan, oui.
Avec des humains à côté de lui ?
Non, il est souvent isolé en tant que...
chat.
En tant que chat.
Avec lui-même.
Voilà.
Un personnage chat qui vous intéresse ou un personnage animal qui vous intéresse spécialement en ce moment, Camille Gévaudan ?
En fait, en ce moment, j'ai une sorte de ras-le-bol des animaux qui deviennent des stars et qui ont des comptes Instagram pour se mettre en valeur. Enfin, surtout des propriétaires d'animaux comme ça qui font des espèces de book photos de leur chat mannequin ou de leur...
Albert le chat, c'est plus pour vous maintenant.
Non, ça m'énerve un peu. Moi, ce que je préfère, c'est les gens qui essayent d'apporter de la créativité dessus, justement, comme votre travail. Mais pas de mettre en avant juste les caractéristiques physiques d'un animal. Pour moi, c'est aussi superficiel que pour les humains. Et surtout, ça appelle de la récupération par la pub absolument monstrueuse ces dernières années.
C'est-à-dire ?
Il y a des marques de... Il y a un festival, par exemple, de vidéos de chats, de courts-métrages de chats, qui s'appelle le Cat Dance Film Festival. C'est surtout les internautes américains qui filment leurs chats, donc ça fait des productions d'assez bonne qualité. Ça, c'est sponsorisé par une marque de litière, et plus le temps passe et moins les vidéos sont intéressantes et plus la pub pour la litière prend de la place. À chaque fois qu'un chat finit par être très connu, comme Grumpy Cat, le chat qui a l'air tout le temps de bouder, qui est un petit peu nain avec une grosse bouille, ou Lil Bub, celui qui a la langue qui pend, finissent aussi par être sponsorisés par des marques de croquettes qui les font tweeter. Enfin, le compte du chat se met à tweeter de la pub pour des croquettes, et je pense qu'on est parti dans un très mauvais virage là-dessus.
Et alors, du coup, vous préférez quoi ?
Moi, je préfère les gens qui inventent des nouvelles choses à partir du matériau de base des gens qui filment leurs chats. Par exemple, il y a un youtubeur français que j'aime beaucoup qui s'appelle Parole de Chat. Il récupère des vidéos de chats ou d'autres animaux d'ailleurs qui ont l'air de parler, de faire quelque chose d'intéressant, et par-dessus, il rajoute sa voix, il les double, il leur fait inventer des histoires. On a par exemple cette vidéo de deux chats qui se tapent dans les pattes, ils sont debout sur leurs pattes arrière, et ils se tapent dans les pattes comme s'ils jouaient à des jeux de main dans la cour de récréation, et lui, il les fait chanter par-dessus dans son La Capucine, et c'est hilarant. Et voilà, lui, il apporte autre chose.
Et on n'a même pas besoin de l'image, parce que simplement la description de cette petite vidéo de chat en train de se taper les pattes et du commentaire chantant vous rend hilar. À Norel.
Oui, parce que je la connais, cette vidéo, et effectivement, elle est hilarante.
Mais alors du coup, bon, moi aussi je ris devant ces vidéos-là, mais moi je me dis, pourquoi ? Pourquoi ça nous fait rire, deux chats qui se tapent dans les pattes, et par-dessus une chanson ou une petite comptine. Qu'est-ce qui se joue là qui fait que, pourquoi on rigole ?
À cause de l'anthropomorphisme, je pense. C'est comme, le succès des photos d'animaux mignons qui ressemblent à des humains, ça date de bien avant Internet. Je crois qu'il y avait un Know Your Meme, le site qui étudie les mèmes et la culture web. Dans la page sur les lolcats, avait essayé de remonter le plus loin possible. Il avait trouvé qu'il y avait un photographe américain, je crois, qui s'appelle Harry Whittier Freeze, et qui faisait des cartes postales d'animaux, de petits chatons, habillés en humains avec des jupes, des salopettes, qui étendent le linge, qui font la cuisine. Ça marchait déjà à l'époque.
Est-ce que c'était un bon tableau, celui-là ? Qui correspond à ce que vous attendez de cette transformation toute récente qui va du conceptual art à cette nouvelle version d'une certaine figuration, pourrait-on dire. Vous croyez ? Cependant, cette couleur rappelle quand même nettement la peinture qu'on faisait au moment de l'art abstrait, n'est-ce pas ? Êtes-vous certain que ce n'est pas un nouvel académisme ? Et mais s'il s'agit d'audace, c'est tout de même une audace contestable. Il s'agit tout de même de marcher. Ben, il va falloir les vendre, ces tableaux. Que feront les gens qui ont acheté les choses précédentes ? Vont-ils les revendre ? Ou bien continueront-ils... Que pensez-vous ? Parce que, en ce moment, beaucoup d'artistes se posent la question. Alors, fermez les musées.
Something for the Cat de Mancini Nova. Et juste avant, on entendait ce dialogue incroyable qui date de 1970. C'est une archive que partage Arte Radio récemment. C'est l'artiste Marcel Brauters qui réalise un entretien avec un chat. Ça s'appelle Interview with the Cat. Et le dialogue porte sur l'art contemporain. Bon, évidemment, le petit tour de langage consiste à dire qu'il s'agit d'un dialogue. On a entendu le chat miauler et donc cet artiste l'interrogeait sur la réalité et de l'avènement de l'art contemporain à ce moment-là. Tout à l'heure, vous disiez, Camille Gévaudan, que ce qui est drôle et ce qui crée éventuellement l'adhésion, l'excitation, le partage, c'est l'anthropomorphisme, c'est la ressemblance ou c'est la manière de tirer l'animal vers l'humain. En effet, qu'est-ce qui reste de vraiment animal dans ces photos ou dans ces images qui sont partagées? Est-ce que l'animalité ne disparaît pas?
Dans ce cas-là, si. C'est effectivement, dans le cas des animaux qui sont anthropomorphisés, ils deviennent des peluches et on ne garde plus rien de l'animal sauvage. Après, il y a d'autres sortes de vidéos qui, au contraire, doivent leur succès au côté sauvage. Déjà, j'avais fait une sorte de classification des vidéos qui marchent sur YouTube sur Libération en 2013. Ça s'appelait « Ça marche au poil ». Et j'avais pris les 35 vidéos qui marchaient le plus sur YouTube avec « chat » dans le titre, sous toutes ses formes, et essayé de voir qu'est-ce qui marchait. Il y avait une catégorie de vidéos qui marchaient à cause de l'anthropomorphisme, et l'autre, je l'avais appelée « Nos animaux ont du talent », parce que c'était l'animal qui fait quelque chose de sauvage, d'inattendu, mais de vraiment propre à sa race. Par exemple, les chats qui sont comme des démons dans leur cage, on dirait qu'ils vont nous agresser, mais on n'a jamais vu une telle violence, ou un tout petit chien qui se défend, enfin un tout petit chat qui se défend face à un gros chien avec un courage qu'on n'aurait pas cru, un chat qui se tient debout sur ses pattes, et ça c'est une autre sorte de fascination pour des comportements animaux étranges.
Est-ce que vous diriez, Anne-Aurel, que dans la fascination qu'on peut avoir en regardant ces images d'animaux, il y a quelque chose qui est une volonté de les tirer vers de l'humain, ou de les tirer vers des comportements que nous connaissons et qui nous font rire?
Je sais pas, je me questionne beaucoup en fait. Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez pas que justement les propriétaires, je mets des guillemets parce que je n'aime pas la notion de propriété sur le vivant, que ça soit animal ou humain. Et encore une fois, je le répète, nous sommes des animaux. Mais finalement, en fait, on fait la même chose avec ces animaux qu'on fait avec nous-mêmes, en fait, finalement. Donc, je sais pas qu'est-ce qui.
Est-ce que vous pouvez préciser, parce que c'est intéressant, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on vend la même chose, ou on met en ligne la même chose de la même façon?
Bah, on se vend, quoi. Enfin, il y a une, tout simplement. C'est pas très propre, hein, mais bon, voilà. Enfin, il faut, comme on est des animaux, mais on essaye de survivre en fait. C'est plus ça, non?
À la différence près que donc un compte Instagram tenu par un humain qui entre guillemets est responsable de ses actes et poste ses propres photos, c'est pas exactement la même chose que quelqu'un qui poste les photos et qui du coup vend l'image d'un autre vivant.
Oui, parce qu'on dans ce cas-là, on l'utilise en fait, tout simplement, quoi.
Il faudrait après, parler du droit à l'image des animaux.
Après, voilà, moi, je poste des photos de ma chatte très régulièrement sur les réseaux sociaux et je l'assume. mais je pense qu'elle l'assume aussi, au fond. Mais on a des grandes discussions très profondes.
Par exemple, ça, vous le faites depuis longtemps, de poster des photos de votre chat? De votre chatte?
Depuis toujours, parce que j'en suis très fière. Parce qu'elle est vraiment, superbe, et c'est quelqu'un de très profond, très. Elle réfléchit beaucoup sur justement sur le sort de l'humanité. Je suis sûre que si elle avait la parole, elle aurait beaucoup de choses à nous dire.
Mais elle ne l'a pas. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous lui inventez des propositions, des pensées, des phrases?
Non, je médite. On médite ensemble.
Et du coup, vous postez des photos silencieuses qui ne sont pas légendées?
Très souvent, je dis que je l'aime.
Que vous aimez votre chatte?
Oui. C'est parce que c'est vrai en même temps.
Tout à l'heure, Camille Gévaudan, elle disait qu'elle avait fait un classement pour le journal Libération, ou pour ce site, en fonction aussi des mots qui sont rentrés, ces mots-clés. Vous rentrez quoi comme mots-clés en dehors du flux lorsque vous cherchez des vidéos ou des images d'animaux?
Ouh là là, les combinaisons sont infinies.
Je Par peux exemple.
Taper chat montgolfière.
Récemment, chat, vous avez tapé chat montgolfière?
Non, mais je pourrais. Ou chat cornichon. je sais pas.
Et il y aurait du résultat.
Mais j'ai envie de dire, faisons le test.
Et ben faisons le
chat
test.
Chat cornichon, je sais pas, mais chat concombre, il y a eu une.
Il y a le chat concombre.
Une vague,
oui.
Dernièrement, oui.
C'est-à-dire?
De vidéos de chats. Enfin, il y en a eu deux au départ, et après tout le monde a essayé de faire pareil pour voir si ça marchait. On prend son propre chat, donc en train de manger dans sa gamelle. On place discrètement un croc concombre derrière lui. Et normalement, quand le chat se retourne et il tombe sur ce concombre qu'il n'avait pas vu au moment où il est venu s'installer, il fait un bond de peur de 1 mètre de haut. Alors ça marche pas avec tous les chats. Après, il y a eu des analyses scientifiques. Hein, des journaux ont demandé à des vétérinaires d'expliquer ce comportement. Ça serait peut-être parce que ça ressemble à un serpent ou tout simplement parce que le décor a changé et que le chat n'aime pas ce qui change.
Non mais fichons-leur la paix.
Je suis bien d'accord.
Qu'est-ce qu'on regarde d'autre comme animaux? Parce que là, on parle beaucoup des chats, mais tout à l'heure, vous disiez que c'est les cacos, c'est ça?
Les cocas.
Est-ce que ça ouvre un champ infini de l'exploration animale? Est-ce que vous avez découvert de nouveaux animaux sur Internet?
Il y a l'axolote qui est pas mal dans le genre animal.
Alors, enseignez-nous, parce que moi, je ne connais pas.
Alors, c'est un amphibien. Donc, c'est une petite chose qui ressemble à un têtard. C'est très préhistorique comme forme. C'est rose. Et il y a eu une chanson, d'ailleurs, faite sur l'axolote qui était hilarante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bestiole? En fait, à partir du moment, hier, je parlais du web, quelle surprise, avec un ami, et on se disait que la curiosité était toujours à un clic près. Et en fait, découvrir des animaux, on peut en découvrir tous les jours. En fait, il suffit juste d'être un peu... Si on est un petit peu curieux, en fait, on en découvre tous les jours.
Et alors, on parlait tout à l'heure du caractère sauvage ou animal. Est-ce qu'il demeure ou est-ce qu'il est parfaitement anéanti? Est-ce que vous regardez, par exemple, des petits courts-métrages ou des petites vidéos d'animaux complètement dans leur élément, dans des grands plans, avec de la nature, avec éventuellement d'autres espèces? Est-ce que vous êtes aussi consommatrice de ce genre d'images?
Des documentaires, vous voulez dire?
Oui.
Oui.
Ou
oui,
des
oui.
vidéos plus courtes, mais simplement qui sortent de l'image un peu mise en scène, avec la présence de l'humain très palpable, en fait.
Bah oui, complètement, oui. Enfin, oui.
Ok. Oui. Super. Et vous, Camille Gévaudan?
Oui, surtout les vidéos de zoos, en fait, parce que les zoos et les parcs naturels profitent beaucoup de la mode des animaux pour, du coup, se faire de la pub et mettre en avant leurs propres petits protégés. Et il y a un blog spécialisé dans les vidéos de bébés animaux nés dans des zoos, par exemple. Et ils en profitent pour montrer la vidéo du 16e anniversaire d'un panda roux orphelin qu'ils ont recueilli. Et du coup, ça fait une super histoire qui est très partagée. Ça leur fait une pub monstre ou la naissance de la dernière portée de lionceau. C'est ce qu'il y a de plus sauvage sur le web.
Oui, c'est pas très sauvage quand même. Non mais le zoo, c'est
on
vrai.
Fait ce qu'on peut. Hein.
C'est vrai, c'est pas très sauvage le zoo.
Ouais, mais le plus sauvage que ça, je pense qu'il faut encore le chercher à la télé dans les documents animaliers, non?
Est-ce qu'il est prouvé que ça fait du clic, ça fait de l'audience? Parce que vous dites là, on profite les zoos, profite justement de cette audience-là et donc génère du flux en postant des vidéos d'animaux. C'est démontré que quand on met un mot-clé qui a rapport avec un chat mignon ou un chat concombre, on s'attire des foules.
Démontrer non, mais dans mon expérience, oui. J'ai beaucoup plus de retours quand je fais un article idiot sur un chat que quand j'écris un article très sérieux qui m'a demandé 2 semaines de recherche et les gens ne me réclament que le nouveau vendredi à poil au lieu des sujets sérieux. Donc c'est parfois un peu désespérant, mais il y a un moment où je me disais avec mes collègues qu'on allait finir tous nos articles sérieux par une vidéo de chat. Comme ça, les gens peut-être parcourraient l'article avant d'arriver à la fin et ce qui les intéresse.
Ou glisser des mots-clés trompeurs dans des articles très très sérieux.
Oui, mais ça serait malhonnête.
Non, c'est vrai que ce serait malhonnête. Et vous avez sur l'ensemble de ce que vous proposez à Norel sur Internet, que ce soit les vidéos, les gifs, les clips aussi et la musique, est-ce que vous avez la sensation qu'un petit mot-clé glissé qui concerne le monde animal et sa version sur le web crée une audience particulière?
Moi, j'ai plutôt l'impression que l'audience, c'est un, honnêtement, sur le web, un énorme mystère pour moi. Enfin, c'est le buzz, ça peut venir de n'importe où, de n'importe quand. On ne sait jamais, ça surgit, quoi.
Fausse rumeur, le chat et les quelques seins ou un bout d'épaule ou un peu de ventre, ça c'est faux, quoi. Ça fait pas spécialement du clic.
Bah si, ça fait du clic, évidemment, mais je pense pas que ça soit si mathématique que ça, en fait.
On peut dire que le monde de Bambi est en train de dominer ce qu'a été le monde politique, vous voyez. C'est-à-dire que le sentiment, la sensibilité, l'innocence a remplacé le discours, l'intelligence, qui sont considérés comme des choses évidemment toujours nourries par la mauvaise foi, toujours nourries par la manigance, par la malice, alors que l'innocence, elle, celle de Bambi, donc, évidemment, cela est prôné. Alors, ça veut dire que font les peluches, les enfants peluches d'aujourd'hui? Eh ben, ils veulent avoir des peluches. Ils considèrent que les animaux sont comme eux, innocents. D'ailleurs, ils sont sans penser comme eux, d'ailleurs, donc ça change pas grand-chose. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent se trouver une peluche à protéger. Tant que c'est effectivement un animal peluche, c'est-à-dire donc, bon, c'était les moutons parce qu'ils sont frisés, les lapins parce qu'ils sont jolis et mignons, etc., jusque-là, ça... Mais ça s'étend les choses. Ça ne s'arrête plus de devenir peluche en dehors de la planète, parce que ça consiste à vouloir avoir le pouvoir de protéger. Ah, donc je suis en train de dire que c'est vicieux finalement de devenir peluche, parce que ça veut dire que ça consiste à vouloir protéger plus faible que soi. Il y a deux façons de protéger plus faible que soi. Soit on rencontre des gens plus faibles, soit on affaiblit ceux qui sont en dessous en les protégeant. C'est-à-dire ce qui se passe un peu partout. Voilà. Donc en fait, le principe du devenir peluche, c'est d'abord, premièrement, remplacer l'innocence par la pensée. Donc avoir des sentiments, avoir des émotions, s'indigner, enfin tous ces machins qu'on voit sur les places publiques, tout ce qu'on voudra, qui passe son temps à essayer d'avoir une conscience propre, nette, charmante, et qui va du véganisme d'ailleurs, c'est-à-dire donc un végétalisme absolu pour protéger les bêtes, jusqu'à la déclaration des droits pour les cétacés, qui a quand même été déposée à l'UNESCO, et des choses aussi extravagantes, alors qu'on est en train de se poser la question de savoir comment on va nourrir 12 milliards d'êtres humains dans 20 ans, à peu près. Donc en fait, voilà, moi je pense que la partition entre d'un côté la jeunesse innocente, un peu comme la décrivait Pasolini à sa façon dans ce qu'il appelait l'hédonisme, eh bien ça comme contrepartie une société policière, parce que il faut protéger les peluches, elles sont innocentes.
Et voilà, donc Romain Debecq de Lièvre hier soir a téléphoné à Jean-Paul Curnier, auteur de Philosopher à l'arc et bien auteur d'autres choses, philosophe, qui parle d'un devenir peluche. Alors c'est un devenir peluche qui lui sert à penser une actualité bien plus large que les seules images qui circulent sur Internet. Cependant, il oppose une forme d'innocence, mignonnerie à une pensée politique plus charpentée, plus active, plus revendicative. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à toutes les deux, à Norel et Camille Gévaudan? En gros, il y aurait d'un côté les vidéos de lolcats et chats mignons et loutres, et de l'autre côté une action sur le monde qui va mal.
C'est peut-être à cause de l'amorosité ambiante que effectivement les gens réclament tant de journaux des bonnes nouvelles et de vidéos d'animaux l'un comme l'autre, oui.
Oui, puis en même temps...
Anorel.
Pardon.
Allez-y.
En même temps, oui, et en même temps, on réclame ça, et en même temps, on la détruit. Enfin, on participe en fait à cette morosité, et je trouve ça, pour le coup, je trouve ça pas très mignon en fait de s'extasier sur une vidéo de chat et à côté n'avoir aucune conscience écologique, aucune conscience de l'avenir de notre planète en fait qui va vraiment vraiment mal en fait. Et ça m'émeut beaucoup plus en fait que l'idée de regarder une petite vidéo ou de suivre un compte Instagram d'Albert. Ça fait la blague, mais au fond on devrait tous rire jaune.
Mais alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va dans le sens de ce que dit Jean-Paul Curnier, à savoir on remplace une action, une conscience politique, qui pourrait être par exemple la défense réelle de l'environnement, de la planète et de certaines espèces, par de la consommation bête et méchante de vidéos de chats mignons, et on ne fait rien. Ce serait cette équation-là.
Ouais, c'est très hypocrite, je trouve.
Donc vous décririez comme ça aussi votre propre pratique ?
Non, je trouve que le discours sur le droit des animaux, ça prend un peu sur le web grâce aux animaux mignons, justement. J'ai vu plusieurs fois des vagues de commentaires sous des vidéos, par exemple les loris qui sont des sortes de lémuriens aux grands yeux ronds extrêmement mignons, qui se font un câlin sur une vidéo et qui a été partagée des millions de fois, et en dessous tout le monde, ceux qui s'y connaissaient en animaux criaient arrêtez de partager ces vidéos, ça donne envie aux gens d'adopter des loris, or non seulement c'est illégal mais en plus c'est dangereux, c'est une espèce menacée en voie de disparition qui est braconnée et vendue 25 000 euros sur internet à des gens qui veulent en avoir un parce qu'ils l'ont vu sur YouTube. Une autre vidéo récemment d'un fermier qui ouvre sa porte et il y a 25 chats dehors qui miaulent pour réclamer leur pâté. Et les gens, au lieu de s'extasier comme on aurait pu s'y attendre parce que les miaulements étaient mignons, ont crié « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le fermier, à laisser proliférer vos chats comme ça, il faut les stériliser ?» Et ça donne finalement un peu de terrain au discours sur la protection animale qui avant ne se faisait pas trop entendre. Enfin, je pense que c'est un peu grâce à Internet aussi que l'association L214, par exemple, sur l'éthique des animaux, réussi à être connu aujourd'hui. C'est eux qui ont fait tourner des vidéos d'abattoirs et tout, mais parce que les gens... Enfin, j'ai l'impression qu'on s'y intéresse par la porte d'entrée des animaux mignons et ça commence à s'ouvrir un petit peu sur d'autres sujets plus sérieux.
Donc ça ne serait pas que hypocrite, il y aurait une forme aussi de retour à l'envoyeur, à savoir une sensibilisation au vivant de manière générale via des vidéos concons, mais qui, par un cercle vertueux, reviendraient à éventuellement une prise de conscience.
Chez une minorité d'internautes, j'ai l'impression que ça prend.
Ouais, moi je sais pas, je me questionne sur le divertissement en fait. Je me demande si à force de se divertir, en fait, on va pas oublier que y a des choses sérieuses derrière, quoi. Je sais pas, je me questionne.
Et bah, alors quand je vous dis vous vous questionnez aussi sur votre propre pratique, vous me faites un nom de la tête, ça veut dire que vous articulez cette consommation ou le fait de regarder de manière professionnelle ces vidéos-là et aussi d'en être une observatrice, une actrice, vous l'articulez avec une conscience pour les animaux, pour la conscience, pour la défense des animaux, pour le droit des animaux, pour la défense de l'environnement, ça va ensemble pour vous?
Ouais, bah alors après, moi, j'ai pas un tempérament militant. Enfin, j'aime pas trop l'effet de groupe. Je suis une solitaire. j'aime partager des idées et je pense que c'est important de partager des idées. Donc, j'irai pas me mettre dans un organisme de protection des animaux, mais en tout cas, j'essaye en tout cas le plus possible de consommer intelligemment justement en m'inquiétant du sort de la planète. C'est pas que les animaux, hein, y a tout le reste, hein.
Est-ce que vous parleriez de la manière dont on regarde, dont les internautes regardent ces images comme d'un acte de consommation?
Oui, mais en même temps, tout est consommation, si on part de là. Non?
Oui. Si, oui. Tout Internet dans ce cas.
Tout Internet dans ce cas.
Oui.
Et le fait, par exemple, de mettre en valeur son chien ou son chat comme des baskets, ou comme, une dernière veste qu'on a achetée et qui nous plaît, est-ce que vous diriez que c'est la même chose?
Si ça consiste juste à faire un profil Instagram pour le montrer sous toutes ses coutures, oui. Si on essaye d'en faire un mème, si on met un petit peu de valeur ajoutée, dans ce cas, on entre dans la culture web.
Bah, s'il y a acte artistique, parce qu'il y a l'art aussi, attention, oula.
On va y venir.
je dis pourquoi pas. Enfin, oui, je dis même carrément. Enfin, S'il y a un discours une esthétique élaborée, oui, mais je prends, ouais.
Alors justement, vous prenez d'autant plus que vous faites.
Ouais.
Comment est-ce que c'est né justement la manière dont vous agrégez toutes ces images, où il n'y a pas que des images d'animaux, dans une production d'images qui devient la vôtre, qui devient une proposition esthétique, qui devient un travail artistique? Depuis quand? Par quels moyens?
Alors depuis quand, je pense que j'ai toujours été comme ça en fait, au fond. J'ai toujours aimé fabriquer des choses, et fabriquer, ça pouvait être fabriquer des petits fagots de bois dans ma ferme Playmobil, jusqu'à faire des dessins, voilà. Donc ça vient de là. Et après en même temps, il y a eu la télévision qui s'est introduite dans ma vie. Et elle n'en est jamais sortie. Et je l'ai. Du coup, c'est elle qui a préparé un bon terrain de
rapport à l'image,
de mon rapport à l'écran surtout en fait, avant tout. Je m'élabore une espèce de monticule de références visuelles, mais qui n'est pas palpable puisqu'elle est cérébrale. Et puis après, bah, j'en fais des choses.
Alors, des choses. Vous dites des choses en désignant votre coque de portable en forme de...
C'est Totoro.
C'est Totoro.
J'en fais des choses. En fait, moi, je me considère plus comme une collagiste qu'autre chose. Sachant que je considère la vidéo comme du collage également, parce que il y a du montage, ça reste du collage. Et donc je prends ces choses et je les mets ensemble, et puis des fois ça va bien ensemble, et puis ça me donne un sentiment de satisfaction.
Follow and Run, la plage isolée, c'était votre choix, Anorel, pourquoi ?
Je la trouve douce, cette chanson, et le clip est très beau. C'est en papier découpé, et c'est... Moi, la musique, c'est la seule chose qui m'apaise vraiment profondément, ou pas d'ailleurs. C'est une directe communication avec mon âme.
Quand vous parliez tout à l'heure de la manière dont vous agrégez quantité de références picturales, plein d'images, d'animaux ou de pas d'animaux, ensuite la réalisation, ça se passe comment ? Comment est-ce que vous les fabriquez, ces clips, ces gifs ?
Je mets les éléments en collision, en fait. Et j'ai le même process depuis des années. Enfin, je collectionne de la matière qui est que je dis que pour moi c'est une palette comme une palette de peinture avec différentes couleurs, sauf que moi c'est des images déjà existantes ou composées, ou alors je sais pas, ça peut m'arriver aussi de fabriquer des formes hein, je ne sais jamais en fait quand je commence quand j'ouvre une timeline ou un projet Photoshop, je ne sais, enfin c'est ça peut partir, c'est toujours très surprenant parce que justement l'image est générée par la collision d'éléments fortuits en fait. Donc je vais avoir des dossiers avec que je classe par mois et puis j'ouvre les dossiers et puis je compile.
Et dans les dossiers, choses. Ce sont des images qui sont déjà détourées ou ce sont les images qui sont prises telles quelles ou comment ça se passe?
Ça dépend. Il y a des là-dedans, il y a toutes sortes de formats. Il y a des JPEG, il y a des GIFs et il y a des PNG. Mon préféré c'est le GIF.
Alors le GIF, on va rappeler ce que c'est.
C'est une image qui bouge. C'est une image courte compressée. Enfin, c'est une vidéo compressée très légère qui permet de diffuser de l'image animée facilement sur le web. Et du coup voilà, je compile ces choses-là et voilà. Je ne sais plus quoi dire de plus.
Pendant le disque, on disait aussi qu'il y arrive un moment donné où, dans la consommation de ces images, dans le fait de les regarder, d'en regarder beaucoup, arrive un embarras, une gêne qu'on a du mal à... Pas forcément pour vous, vous disiez, Camille Gévaudan, mais en tout cas quelque chose qui fait qu'on ne sait plus exactement ce qu'on est en train de faire, comme si on ne sait plus ce qu'on est en train de regarder ou ce qu'on est en train de regarder ou la manière dont on le regarde. Et est assez déstabilisante. Et vous disiez, Camille Gévaudan, c'est pareil que de croiser quelqu'un qui, je sais pas, se sert de son chien comme d'un objet décoratif dans la rue, au supermarché, ou en montrant. Qu'est-ce qui se joue là, alors, dans le rapport à l'animal?
Je sais pas. Non, c'est trop impressionnant comme question.
Et pour vous, Anne-Aurèle?
Moi, je sais pas à quoi on joue. Et encore une fois, moi, je pense que, moi, j'ai plus l'impression qu'on survit plutôt que qu'on vit. Et on fait ce qu'on peut. Enfin, je sais pas. On se pose pas mal de questions ici, et je trouve ça bien de s'en poser en général et tous les jours. Et je souhaite profondément que tout le monde se pose des questions tout le temps, en fait, parce que rester alerte, c'est le meilleur moyen de pas s'enfoncer dans la bêtise. Et on l'a vu très bien trop souvent, en fait, la bêtise apporte pas forcément des bonnes choses. Donc réfléchir ce rapport-là à l'animal, que ça soit sur Internet ou dans ce qu'on met dans la gamelle de son chat, c'est notre responsabilité, en fait.
Et vous le faites, par exemple, à un moment donné, ça vous est arrivé, vous qui consommez beaucoup de ces images-là, à un moment donné, vous vous êtes dit, peut-être qu'il faudrait que j'arrête.
J'ai eu un moment comme ça, ouais, où je me suis dit, allez, j'arrête tout. Mais c'était parce que j'étais très pauvre et que j'en avais marre d'être pauvre et que je me suis dit, allez, j'arrête. Et puis.
C'est quoi le rapport?
Parce qu'il fallait que je puisse survivre encore une fois, quoi. Et pour gagner sa vie, artiste, c'est pas le moyen le plus facile. Je regrette pas d'avoir persévéré, mais à un moment, je me suis dit, j'arrête. Et au même moment, où je me suis dit, j'arrête, je me suis dit, d'accord, mais j'arrête quoi? Et vu que cette question était, en fait, c'était retournée comme une crêpe au moment où je la posais, et ben, je me suis dit que j'avais trouvé ma réponse. Et que, donc, je n'arrêtais pas.
Et vous, vous êtes dit que vous alliez peut-être arrêter de regarder ces images-là, de les commenter, Camille Gévaudan?
Il y a des moments où je me demande si c'est bien sérieux tout ça et si je ferais pas mieux d'employer mon temps à des sujets un peu plus nobles. C'est pour ça que par rapport au début de la rubrique Vendredi à poil où on relayait juste les vidéos telles quelles en leur trouvant un titre marrant, on met en fait avec ma collègue qui s'en occupe avec moi en ce moment, de plus en plus, on éditorialise de plus en plus, on raconte des blagues, on met des informations en plus, on essaye de contextualiser la vidéo pour qu'au moins les gens sachent d'où elle vient, qui l'a filmée, remettre un petit peu de source et de contexte dans Internet, et puis d'apporter aussi des infos scientifiques, des infos culturelles, des études sur la répartition des tâches sur le patron des robes de chat, et voilà, le plus de contenu possible pour sortir de cette overdose de mignonitude, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient écœurant.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud.
Et il est 14h50 sur France Culture. Chaque jour, à cette heure-ci, nos discussions se suspendent pour faire entendre des récits d'émotions fortes, des moments de bascule, des décisions, des expériences esthétiques. Cette semaine, c'est la jeune costumière Marie Amp qui se prête au jeu. Elle est costumière pour la compagnie du théâtre Inutile. Et aujourd'hui, elle raconte un choc d'image aussi, mais un choc d'image de parure qui influence très nettement sa nouvelle façon de concevoir des costumes.
La parure, c'est arrivé dans mon travail avec la compagnie Théâtre Inutile, mais par le biais de deux livres qui ont été un peu des chocs esthétiques et puis de réflexion aussi. Un livre qui s'appelle Wilderman, d'un photographe qui s'appelle Charles Frégé, et un livre qui s'appelle Masque, de Phyllis Galambeau, qui est photographe américaine. Et donc, ces deux bouquins qui sont avec des photos, des portraits en pied, on va dire, de, comme on les nommait, des créatures. En gros, ça se passe pour Wilderman en Europe, et pour le livre Masque, c'est des photos qui sont dans plusieurs pays d'Afrique. Des photos prises de sortes de costumes, enfin de corps masqués, on va dire, qu'on fabrique pour des occasions comme des carnavals, des rituels, des choses qui ont à voir avec le sacré, avec la mort, avec tout un tas de trucs, le carnaval aussi, où on renverse un peu tout. Et des photos avec des espèces de créatures qui émergent, donc parfois sortes de figures animales très étranges, des corps peints, des corps recouverts de matière à tel point que ça devient des formes abstraites. C'est très très curieux. Et du coup voilà, ça a été une source de nourriture pour une création déjà passée qui s'appelait En guise de divertissement et puis qui me poursuit encore dans mon travail. Et puis a priori ça va être une recherche au long cours parce que c'est assez inépuisable comme thème. Et par rapport à mon travail et à la manière dont je peux l'envisager aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la parure, c'est que c'est un objet avec lequel on a des relations et qui raconte des relations, des liens qu'on peut avoir avec le monde et toutes sortes de choses dans le monde. Donc c'est un objet en soi qui va pouvoir recouvrir partiellement ou complètement le corps d'un comédien. Donc qui peut exister de manière autonome mais qui peut aussi s'intégrer à un corps pour former un autre corps qui va plus être un corps humain en fin de compte, qui va être autre chose, qui va désindividualiser, va fabriquer quelque chose de créature immortelle, divine, enfin voilà, la palette est très très large. C'est des choses dont je me nourris sans le savoir vraiment depuis longtemps. C'est des images qui me parlent, je sais pas, des parures qu'on peut voir au musée du Quai Branly, par exemple, qui viennent d'Amazonie ou de n'importe quel endroit du monde. C'est toujours des trucs qui m'ont parlé depuis longtemps. Et puis du coup, c'est aussi intéressant, enfin, du coup, plus à un niveau personnel, parce que ça fait remonter aux premiers âges de l'humanité, les premières parures trouvées d'il y a 20 000 ans, on peut penser pour certaines théories que c'est les premiers objets qui sont apparus avant le vêtement, qui serait plutôt de l'ordre de la protection du corps, on va dire. Donc un truc qui a à voir avec le sacré, avec la mort, avec des choses comme ça qui travaillent aussi pour toute personne humaine sur Terre, quoi. Voilà. I don't wanna share the sea. I'm a bit above you. Together, il n'y a pas de place ici. Please, big fish don't last forever. I'm
feeling irrational. Diving into the waves, you know, I know it's a dream. I didn't mean to be mean. I wish you don't go, I wish you don't go away. You're the stream in my soul and I just want you to stay.
Par Casey Lambis Doing Yoga, ce Montpelliérain qui sera en concert le 12 mai au Point Éphémère à Paris, le 5 juillet à la Maroquinerie, toujours à Paris, et le 31 juillet à Marseille. Merci beaucoup Anorelle d'avoir été avec nous. On peut voir vos productions sur anorelle.com, mais aussi sur SoundCloud, mais aussi un peu partout, Twitter, Facebook, j'imagine.
Ouais, surtout Vine. Vine et Instagram, ouais.
Les deux que j'avais oubliés.
trop dommage.
Camille Gévaudan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Apparemment, on va dire que c'est une réflexion qui s'ouvre. C'est un gros chantier.
Oui.
On pourrait presque se donner rendez-vous dans...
Tout à l'heure.
Tout à l'heure. Les nouvelles vagues, c'est terminé pour l'instant, pour aujourd'hui. Nouvelles vagues sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter et sur Facebook. Cette émission est imaginée avec Romain Debec de Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Somanina qui la réalise. Thibaut Germaz était aux manettes aujourd'hui.